Soif d'autre chose.
Soif d'autre chose.
L'émission jeune de Radio Présence.
Bonsoir à tous, bonsoir à vous, chers auditeurs, bonsoir à vous sur le plateau. Salut Rachel.
Salut Léopold.
Alors bienvenue sur Soif d'autre chose, une émission de Radio Présence qui est organisée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse. Alors cette émission, elle est toute nouvelle et pour la faire très simple, ce sera une émission où on parlera de foi autour de différents thèmes. On va pouvoir parler d'alcool, de sexualité, de dogme, de comment témoigner de sa foi, etc. Et ce soir, première émission, on va parler de prier au quotidien avec Pierre et Sœur Marie-Anchela. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, Rachel ?
Juste pour vous dire bienvenue et on espère que vous serez nombreux à nous écouter régulièrement toutes les semaines. C'est vraiment cette émission, elle s'adresse aux jeunes et on vous retrouvera chaque semaine avec Léopold autour de cette table à Radio Présence. On aura avec nous un autre animateur. Aujourd'hui, c'est Enzo. Et puis également deux invités à chaque fois selon les thèmes. Voilà, on vous laisse avec...
Et puis ce soir, épisode 1, merci à Julien d'avoir organisé tout ça. Julien de la Frate Saint-Pierre de la paroisse étudiante. Donc c'est des petites frates qui organisent la vie de la paroisse. Et puis épisode 1, c'est parti.
Bienvenue à vous, Pierre et Sœur Marie-Anchela. On vous invite à vous présenter rapidement ce soir et voilà, nous expliquer un peu quel est votre rapport avec ce thème, pourquoi on vous a appelé ce soir.
Bonjour, donc Sœur Marie-Anchela de la Communauté des Béatitudes. J'étais 5 ans responsable du catéchuménat à la paroisse étudiante, donc j'ai encore sur le cœur la joie que j'ai pu passer avec tous ces jeunes pendant 5 ans. Et j'apporte une certaine contribution à l'équipe du catéchuménat du diocèse actuellement. Voilà, donc ce soir, pour le thème de la prière, je crois que, comme je suis religieuse, ce thème me convient tout à fait.
Et moi, c'est Pierre. Je suis père de famille. J'ai la joie d'avoir deux petites filles, Diane et Madeleine. Et je pense que je peux témoigner aussi dans ma vie de foi, dans ma vie de prière, au quotidien, à travers mon travail et ma vie d'époux. Et ensuite aussi au catéchuménat, où ça fait 2 ans que j'essaie de me donner pour tous ces jeunes qui arrivent à flot dans la paroisse étudiante.
Très bien, merci à vous d'être là. Peut-être qu'on peut commencer par vous demander quelles sont vos habitudes de prière au quotidien, comment vous vivez votre prière tous les jours.
La prière fait partie de la vie d'une religieuse. Si une religieuse ne prie pas, il y aura un petit problème. Donc la prière est centrale. Et je dirais même, j'étendrai davantage la chose, c'est que la prière est centrale dans toute vie chrétienne, dans tout baptisé, et que la première mission du baptisé est de la prière. Donc déjà, moi en tant que religieuse, la prière fait partie de ma vie et prioritaire dans ma journée, puisque je commence la journée par la prière et aussi je termine la journée par la prière. Sans oublier aussi pendant la journée des temps de prière qui sont propres, des temps personnels de prière et aussi des temps en communauté, en église, quoi.
Ok, merci.
Et moi, mais c'est tout pareil, j'ai juste pas le scapulaire et la tenue blanche de la sœur, j'ai un bleu de travail et j'essaie d'avoir cette relation avec Dieu dans mon quotidien, commencer ma petite journée de travail avec mon petit camion, avec une petite prière et voilà, et de lancer comme ça et tout au long de la journée.
Ok.
Moi, il y a un truc qui me frappe, on parle de prière au quotidien et aussi de prière dans le quotidien, même prière personnelle. Sœur Marie-Anchela, je vous croise souvent dans les rues à Toulouse, en train de marcher à toute vitesse, on ne vous suit pas. Et vous êtes là avec votre main au rosaire sur le côté de votre ceinture, vous égrenez les réjouis-toi-Marie comme ça, c'est très inspirant. Enzo, tu avais peut-être une petite question à poser.
Oui, pour Pierre, voilà, tu dis que prier fait partie de ton quotidien. Tu commences ta journée justement par une prière, par ton travail. Est-ce que c'est pas un acte de sanctification justement par l'ordinaire de bien faire son boulot, de prier au quotidien
Ouais, j'ai été à la bonne école. Et j'ai fréquenté l'Opus Dei au début quand j'étais étudiant et j'ai essayé un petit peu de chercher à me nourrir et à poser un cadre. Et c'est là-bas que je l'ai trouvé, avec Saint José Maria, qui nous explique que moi aussi, laïc, je peux cultiver cette relation avec Dieu. Et je peux la trouver avec ce plan de vie, définissant un petit peu moi-même, avec l'aide d'un prêtre et du bon Dieu, où je veux aller et comment je peux y arriver. Et bien sûr que le but, c'est la sanctification au quotidien. Et donc, ça passe par ma relation de prière. Et en fait, par exemple, j'aime ma femme. J'aime beaucoup passer du temps avec elle. Et du coup, ben, j'aime Dieu. Et du coup, je veux passer beaucoup de temps avec lui. Voilà.
Non, c'est beau, c'est très très beau. Sœur Marianchilla, c'est vrai que les gens, les étudiants, voilà, les jeunes, ne connaissent pas forcément les habitudes de prière d'une religieuse dans une communauté. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler concrètement des temps de prière qui sont présents
Alors, des béatitudes. Comme dans toute communauté religieuse, je pense qu'il y a la prière du matin, donc en communauté qui s'appelle les laudes, et la prière du soir qui s'appelle les vêpres. Et sans oublier la prière avant d'aller se coucher, qui sont les complis. Et entre-temps, nous avons la messe dans la journée, soit le matin, soit midi, soit ça dépend des jours, donc il y a un rythme qui est un peu différent, mais on participe à tous ces temps de prière en communauté, dans une vie commune, c'est-à-dire une vie religieuse. Okay. Et c'est un canevas classique dans toute communauté.
Oui, oui.
Voilà.
Ok.
Alors la sœur, elle a de la chance. Elle, c'est hyper rythmé. Mais nous, les laïcs, je pense qu'il faut qu'on s'adapte aussi à notre vie de tous les jours. Et moi, ma vie d'artisan, elle bouge tout le temps. Le planning bouge tout le temps. Ce n'est pas les mêmes clients. Mais donc, voilà. Je pense que les laïcs sont un petit peu plus flexibles que les religieux.
Oui.
Mais on y arrive.
Mais du coup, c'est peut-être aussi... c'est sans doute plus compliqué. Enfin, pas forcément plus compliqué, mais c'est un rythme différent. Et c'est quoi un peu tes tactiques, tes idées pour tenir dans la prière? Sans un cadre religieux, en fait.
T'as organisé une prière par truc que tu répares. Quand c'est un lavabo, tu dis ça. Quand c'est des
choses, ça. Ah non, même pas. Mais si, quand même, ça m'arrive. Tu sais, quand il y a quelque chose qui va bien, là, tu te dis, punaise, c'est bon, il n'y a plus de fuite. merci Seigneur. Maurice n'aura pas à intervenir pour séparer les eaux. Et donc voilà, ces petites prières jaculatoires. Tu sais, c'est ces petits moments où on peut s'apercevoir que Dieu est là. Voilà, le remercier pour les petites choses simples. Et là, en ce moment, c'est dur de prier le matin, c'est donc avec les deux petites. Mm-hmm. Et du coup, il faut que je me lève un quart d'heure avant. Donc, au lieu de, tu sais, j'ai décalé le réveil, au lieu de passer de 6h45, hop, 6h30, comme ça me laisse mon quart d'heure tout seul. Il y a encore tout le monde qui dort à la maison, et c'est bon, on peut se mettre un petit peu en présence de Dieu. Et voilà, et après, tu sais, il y a beaucoup de temps de camion. Et en ce moment-là, c'est le frère Paul-Adrien qui m'a régalé avec le podcast.
Oui, la Bible.
Là, c'est pareil, bon. Je suis au livre des nombres, ça avance.
Ah oui, t'es loin. Mais du coup, en parlant de la Bible, est-ce que vous priez avec la Bible? Est-ce que vous incluez la Bible dans votre prière personnelle, en famille, en communauté?
Bien sûr.
Voilà. Comment est-ce que la parole de Dieu vous
La Bible, la parole de Dieu fait partie de la vie du chrétien, de tout chrétien, et en plus d'une vie religieuse. La Bible, il faut la consulter chaque jour. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus qui se donne à travers sa parole. Et donc, je crois que la parole est un des moyens que Jésus nous a laissés pour être en présence de lui. Jésus donc est venu en pèlerinage sur la terre un certain temps. Il est reparti vers le Père, et pour ne pas nous laisser orphelins, comme dit l'Écriture, il nous a laissé des moyens pour avoir une présence aujourd'hui. Et pour vivre du Christ aujourd'hui, c'est-à-dire la prière, évidemment, puisqu'il y a une présence, la prière est une relation, est une rencontre avec le Seigneur et une intimité avec le Seigneur. Donc la prière, les sacrements, bien sûr, avec notamment l'Eucharistie, évidemment, et puis donc la parole de Dieu qui nourrit la vie. Chaque jour, à chaque instant, nous respirons. Donc la respiration fait partie de la vie physique. Et la prière fait partie de la respiration de l'âme. Si on ne respire pas quelques minutes, il est bien évident qu'on ne va pas aller très loin. Et si on n'utilise pas la prière, justement, pour qu'il y ait la respiration de l'âme, il va y avoir un déséquilibre dans la vie de l'homme, puisque nous sommes corps, âme et esprit. Donc la prière a une grande part dans la vie de tout chrétien.
Justement, ma sœur, j'aimerais revenir à ce que vous avez dit. Vous dites que la parole de Dieu nourrit la prière. La parole de Dieu, donc la Bible, quelquefois pour des jeunes étudiants qui n'ont plus forcément l'habitude de lire, la Bible peut faire peur par son nombre de livres, son nombre de pages. Est-ce que vous auriez quelques conseils à nous donner justement pour que cette lecture soit plus facile, des passages particuliers.
Alors surtout, il ne faut pas avoir peur de la Bible. C'est la parole de Dieu qui vient nous rejoindre. Donc la parole est nourriture, la parole nourrit notre âme. Et prendre la parole, ça peut être compliqué, effectivement, puisque la Bible est une bibliothèque, puisqu'il y a différents, il y a X livres dans la Bible. Mais ne serait-ce que prendre, il faut oser ouvrir la Bible. Et prendre, notamment, pour commencer peut-être par les évangiles ou les psaumes, et prendre un ou deux versets et le méditer dans son cœur. On dit que Marie gardait tout cela dans son cœur et le méditait. La parole est vivante, donc elle fait son travail dans le cœur. Et donc, quand on lit la parole, malgré nous, elle fait un travail puisque c'est une parole vivante. Donc, il faut oser prendre la Bible, il faut oser l'ouvrir, et ne serait-ce que prendre des évangiles. Ouvrez l'évangile et prenez un ou deux versets. Alors, il est bien évident que ce n'est pas évident de lire la Bible, mais il faut déjà commencer. Vous croyez que pour un sportif qui commence à courir la première fois, c'est évident? Non, parce qu'il faut s'habituer à quelque chose. Vous parliez, Pierre, tout à l'heure de votre épouse, donc évidemment que vous aimez votre épouse et c'est très bien. Le Seigneur, on aime le Seigneur, chacun, on aime le Seigneur à sa manière. Mais si pour s'approcher de quelqu'un et pour l'aimer, il faut prendre les moyens qu'il nous a donnés pour se laisser approcher par lui et pour nous approcher de lui. Donc lire la parole, c'est vraiment s'approcher du Christ, même si on ne comprend pas très beaucoup au début. On ne comprend pas, des fois on ne comprend rien du tout, ce n'est pas grave. Mais persistons dans la lecture. Et à un moment donné, l'Esprit Saint va nous aider à comprendre, parce que c'est pas nous toujours qui comprenons, c'est l'Esprit Saint qui nous aide. Donc, une petite clé avant de lire la parole, priez l'Esprit Saint qui va vous aider et qui va vous accompagner dans la lecture de la parole, de la Bible.
Et en plus de ça, comme Pierre l'a bien dit, on a des super podcasts, dont celui de Frère Paul Adrien, La Bible en un an, où il lit tout en un an, et c'est vraiment top pour commencer. Oui, c'est aussi vrai.
Ouais, parce que je t'avoue quand même que je pense que, donc au niveau de l'oraison, tu vois, je commençais à chaque fois par la petite parole de Dieu qui se trouve dans l'office des Lodes le matin, tu vois, et comme ça t'as un petit truc rapide, mais rude quand même, à lire la Bible, et j'ai découvert vraiment, tu vois, cette lecture à 24, 25 ans, ouais. Bon, j'ai toujours 25 ans, et tu vois, et donc relativement tardivement, et en fait, là c'est avec les catéchumènes où ça m'a mis un gros coup de pied aux fesses, et je me suis dit, mais mince, en fait, qu'est-ce que je vais transmettre? Et c'est là où on s'aperçoit quand même que c'est vrai que ça nourrit, mais il n'est jamais trop tard. Et voilà, même si c'est fait un peu tard.
Vos engagements auprès justement des catéchumènes, vous avez tous les deux eu cette expérience. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre prière? Est-ce que ça vous a apporté une dimension nouvelle?
Alors je dis oui, sans hésiter, parce que déjà prier, ça transforme. Et prier avec des jeunes ou apprendre à prier. Parce que ce qui m'a toujours frappé chez les jeunes, quand ils viennent pour la première fois, la question que je pose, c'est « Est-ce que tu pries ?» Mais non, je ne sais pas prier. Comment prie-t-on? Et c'est tout simple. La prière est une relation, c'est un dialogue avec Dieu. Donc il faut parler à Dieu pour s'approcher de lui et se laisser approcher. Et donc, non. La question, mais à être avec les jeunes, bien sûr que ça fait grandir dans la prière, parce qu'on se rend compte que quand on donne, on reçoit. Parce que la question des jeunes nous interpelle et approfondit certaines choses qui paraissaient évidentes pour nous, mais qui, quand on est interpellé par les jeunes, eh bien, il y a des choses qui évidentes pour quelqu'un, ne le sont pas pour tous. Donc ça permet d'approfondir pour pouvoir expliciter certaines choses.
Et pour toi, Pierre?
Et pour moi, je l'ai découvert avant les catéchumènes avec la prière en famille le soir. Mmh. Et tu vois, de voir l'impact que ça a de prendre ta petite famille et de guider cette prière en famille. Je sais que ça m'a vraiment comblé. Et de voir ta fille de 2 ans qui se met à genoux à la prière du soir, ça touche. Et en fait, c'est pas pour moi, c'est pas pour mon ego et pour me dire que je suis un bon père de famille, mais c'est pour le bon Dieu, quoi. Et voilà, et après de guider aussi, ouais, c'est vrai que c'est... cette soif et cette relation qu'on a chacun différemment avec le bon Dieu.
Et si vous deviez nous résumer un passage biblique, peut-être votre passage biblique préféré à chacun.
Mon âme exalte le Seigneur.
Cantique de Marie.
Et moi, ça serait, en plus on l'a lu il n'y a pas longtemps, c'est l'évangile de Saint Jean. Je l'avais préparé, 13-23. Et c'est quand Jean, le disciple, se penche sur Jésus et pose sa tête. Et, Et c'est un petit peu ce que j'essaie de faire dans la prière, c'est me reposer sur le Christ et être là auprès de lui.
On va avoir une petite interlude musicale. On va vous mettre « Jamais marcher seul » d'Hillsong Music. C'est un titre qui indique que le Christ est toujours là dans nos vies, même quand ça va mal. Et voilà, on marche pas seul, il est à côté de nous et il nous aide.
Forcément remparer, j'essaie.
Voilà, c'était Je ne marche jamais seul de Hillsong Music. Et puis on peut reprendre avec nos questions-réponses. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose sur ce que tu disais, Pierre. Tu parlais de transmettre la prière, notamment à tes filles. Je pense qu'on vit aussi ça beaucoup avec au catéchuménat, avec nos catéchumènes. C'est vrai que c'est quelque chose quand même de commencer à prier en groupe avec eux quand on n'a pas trop l'habitude. On commence à prier à voix haute et à peut-être un peu les guider dans la prière, dans la manière de prier. En plus, on est deux par... On est deux par petite frate de catéchiste, donc on n'a pas forcément les mêmes habitudes de prière que l'autre, mais c'est très bien, comme ça on varie. Un coup on fait une prière spontanée, un coup on peut dire les complis ou choses comme ça. Et il y a aussi, cette question de comment eux les inviter à prier. Et moi je sais qu'il y a des catéchumènes qui ont beaucoup de mal à prier seuls, et voilà, on leur proposait avec mon co-catéchiste peut-être de les aider à écrire une petite prière qu'ils pourraient dire le matin et le soir. Qui pourrait dire le matin et le soir pour commencer à prier juste sur un signe de croix, ou même commencer avec un « Je vous salue Marie, notre Père », les classiques, les bases, et puis au fur et à mesure ça s'étoffera. Mais voilà, je ne sais pas ce que vous pouvez dire sur ça, sur comment aider les jeunes à commencer à prier pour ceux qui n'ont pas l'habitude de prier, qui n'ont pas appris en famille, qui n'ont pas eu la chance de...
C'est vrai que ouais, là les filles, on a la chance de pouvoir le faire en famille, mais après tu vois, moi dans ma famille, j'ai jamais eu mon père, tu vois, qui nous a appris à prier. Et donc, je pense que c'est quand même chacun qui découvre sa relation personnelle et intime, c'est avant tout intime aussi, avec le Christ. Et c'est vrai que de s'adresser, tu vois, aussi à la Trinité, est-ce qu'il y a peut-être une figure de la Trinité à qui on arrive à avoir peut-être un dialogue, à pouvoir mieux s'identifier à lui? Par exemple, tu vois, je sais que j'ai plus facilement tendance à parler au Christ. Bon, peut-être c'est son côté artisan de menuisier, mais... mais voilà, donc tu vois, de lui parler un petit peu personnellement, mais on a quand même cette Trinité qui est riche. Et de ne pas chercher peut-être, tu vois, on a peut-être l'exemple de l'abbé Verlet à la paroisse étudiante qui nous fait de grands discours, de grandes prières bien étoffées, et parce que c'est un bon leader. Mais voilà, avec des mots simples et qui nous sont propres. Donc je vais avoir mes mots à moi et c'est, voilà, c'est ce qui est beau aussi.
Oui, alors il y a l'exemple de ceux qui prient, qui déjà peuvent interpeller aussi les jeunes. Il y a combien de fois, souvent une étudiante m'a dit qu'en voyant prier les grands-mères, quand elle était petite, cette image lui est restée. Donc il y a cela aussi, le témoignage de la prière, voir quelqu'un prier, c'est impressionnant. Mais je crois que ce qu'il faut surtout demander, enfin dire aux jeunes pour commencer à prier, parce que la plupart, quand ils arrivent, je ne sais pas prier, comment prie-t-on? Ben déjà, savoir qu'on parle à une personne qui est le Christ, sans parler tout de suite du Père ou de l'Esprit, effectivement, mais le Christ est plus accessible puisqu'il s'est incarné. Et je pense que c'est prendre l'habitude tous les jours, un petit temps, selon le programme que l'on a chacun, de prendre fidèlement un temps régulier dans la prière. Alors, il y a des prières, des fois, on sent, il y a une sensibilité. Parfois, dans la prière, le Seigneur donne des petites grâces. Mais plus souvent, c'est le désert, souvent, parce qu'on parle et on n'a pas de réponse. Et on veut des réponses dans un monde où on veut des choses tout de suite et concrètes. Mais non, il faut de la patience pour entrer dans la prière, une fidélité de chaque jour. Et c'est comme ça que le Seigneur qui s'approche de nous, Dieu vient vers nous, c'est comme ça qu'on va pouvoir rencontrer le Christ. Parce qu'il faut une fidélité pour pouvoir rencontrer... Pierre, vous avez été fiancé avant d'être marié. Pour rencontrer, pour connaître votre femme, il a fallu la voir un certain temps avant
de... Ah oui, je l'ai contemplé longtemps. Hein,
Donc c'est prendre rendez-vous régulièrement avec le Christ, chaque jour dans la prière, et il va se passer quelque chose dans la prière. Et pour revenir aux jeunes, moi, quand je voyais arriver les jeunes et que je les voyais un an et demi après au baptême, ce n'est plus le même jeune que j'ai rencontré le premier jour. C'est-à-dire qu'une vie chrétienne est une vie qui transforme. Et c'est être chrétien, c'est être en devenir. Donc, il y a une transformation qui se fait au goutte à goutte par la prière, par les sacrements, par la parole, et puis par la vie fraternelle aussi.
Tout ne dépend pas de nous aussi. Et on essaie de se mettre dans cette disposition, et à un moment,
bien sûr.
C'est un dialogue, et c'est un petit peu comme à l'adoration, tu sais, quand tu vois les rayons qui irradient... de l'ostensoir, il n'y a pas que toi, et en fait tu te mets devant et tu bronzes devant, quoi.
Oui, c'est ça.
Il y a les sacrements, oui.
C'est-à-dire qu'il faut avoir un cœur ouvert. Il faut ouvrir son cœur.
De se rendre disponible.
Voilà, se rendre disponible, ouvrir son cœur et parler à Jésus, mais aussi écouter. Parce que il ne faut pas avoir peur du silence intérieur. Enfin, il ne faut pas avoir peur de son intérieur. Et je crois qu'il y a une petite peur pour les jeunes par rapport à l'intériorité. Ouais. Osons l'intériorité, parce que c'est par là qu'on va découvrir quelque chose de vivant.
Et tu t'aperçois que tu es plus serein, un peu plus sur tes bases, un peu plus posé, quoi. Tu vois, Julien Marchand au rugby, il est sur ses bases, il est posé, et avant de le faire bouger, on va essayer d'être aussi solide que lui.
Merci beaucoup pour vos réponses et pour ce temps d'échange. J'espère que tous ceux qui nous écoutent ont été aussi touchés que moi, en tout cas. Et j'espère aussi que ceux qui écoutaient cette émission pour avoir des conseils dans la prière ont trouvé ce qu'ils cherchaient, ou en tout cas quelques réponses. Pour terminer cette émission, on va écouter Sanctus, la chronique de Louise.
Merci Rachel. Alors bienvenue dans Sanctus, la chronique qui parlera de la vie des saints. Je m'appelle Louise et toutes les semaines, on abordera la vie d'un saint en lien avec le thème de l'émission. Donc pour moi, c'était vraiment important de montrer comment leur vie pouvait nous rejoindre aussi dans notre quotidien d'étudiant. Parce que le lien, il n'est pas toujours si évident que ça. Donc aujourd'hui, je vais partir sur du basique pour le commencer. Donc on va faire sur Sainte Thérèse de Lisieux. Donc pour ceux qui connaissent déjà, ça fait des petites révisions. Et ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion de découvrir une sainte qui est hyper inspirante. Donc c'est l'une des saintes françaises qui est les plus connues. Et elle m'a surtout touchée par la simplicité de sa vie. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé très beau. Donc elle a grandi à la fin du 19e siècle en Normandie avec son père, après la mort de sa mère qui intervient quand elle est très jeune et qui la fragilise énormément. À 10 ans, elle guérit miraculeusement d'un sourire de la Vierge, ce qui est plutôt cool quand même. Et très jeune, ses parents remarquent que c'est une enfant qui est très pieuse et qui est vraiment le cœur tourné vers Jésus. À 15 ans, elle va répondre à l'appel du Christ et rentrer au Carmel en prenant le nom de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face et rejoindre ainsi ses sœurs qui y sont déjà. Et c'est là qu'elle va se dévouer à la vénération du cœur de Jésus et à son amour miséricordieux. Mais très rapidement, sa santé va aussi décliner. Elle va quand même prendre le temps d'écrire ses mémoires. D'ailleurs, ceux qui sont intéressés aussi pour approfondir peuvent aller les voir. Et malade de la tuberculose, elle va mourir à l'âge de 24 ans, elle qui avait déclaré qu'elle passerait son ciel à faire du bien sur la terre. Alors je voulais souligner deux points qui m'avaient particulièrement touchée. Donc tout d'abord, c'est la simplicité de cette vie. C'est très beau parce qu'en fait, elle n'a pas fait des choses extraordinaires. Elle n'a pas visité des pays de ouf ou fondé des congrégations religieuses, fait des miracles de dingue. Non, pas du tout. Elle a mené une vie qui était toute simple, une vie en famille, avec ses sœurs, ses parents, une vie de prière. Elle a rendu service. Elle a fait des choses qui étaient vraiment toutes simples. Et au final, en fait, c'est ce qui compte. On peut se rendre compte que la sainteté, c'est peut-être faire des choses toutes simples, mais avec un cœur qui est tourné vers Dieu. Et aussi, je voulais aborder, donc en lien avec le thème de l'émission, la force de la prière, à quel point c'est présent dans la vie de Sainte Thérèse. Et moi, il y a un exemple qui m'a particulièrement marquée. C'est la fois où elle va prier pour un meurtrier à Paris et pour sa conversion. Et alors qu'il monte sur les marches de l'échafaud, il va embrasser le crucifix, et ce qui montre vraiment sa conversion. Et c'est là qu'on voit vraiment toute la confiance qu'avait Sainte Thérèse, et elle l'a placée dans le Christ. Et à quel point aussi elle nous montre que nous, on devait aussi lui faire confiance. Et c'est comme ça qu'elle nous a montré le chemin du ciel. Donc pour terminer, je voulais terminer avec quelques mots qu'elle disait sur la prière. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour, au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus.
Merci beaucoup pour cette belle chronique sur cette belle sainte qui est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Merci beaucoup, Sœur Marie-Anchila, d'avoir été là ce soir. Merci aussi à toi, Pierre.
Merci.
On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur l'alcool et la position de l'Église vis-à-vis de la consommation d'alcool. Donc vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les plateformes de podcast et on espère... vous retrouver la semaine prochaine. Merci Enzo, merci Léopold.
Merci Rach.
Avec grand plaisir.
Et puis aussi sur le site de Radio Présence.
Ah oui, également, pardon.